Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Elle et Québec Oiseau. Au programme, voilé ou non, les Turcs s'émancipent. Et le canard noir. Bonne écoute.
Voilé ou non, les Turcs s'émancipent, un texte de Marianne Demers-Lemay, paru dans l'édition de février-mars 2023 du magazine Elle. En Iran, les femmes tentent de s'affranchir de la soumission au régime des ayatollahs en refusant le port obligatoire du voile. De l'autre côté de la frontière, en Turquie, le hijab est considéré à la fois comme un symbole d'oppression et d'identité dans une société scindée entre conservatisme religieux et laïcité. Qu'elles arborent de jolis foulards colorés ou qu'elles laissent leurs cheveux flotter au vent, les Turcs luttent à leur manière pour la reconnaissance de leurs droits. À son grand désarroi, sa propre mère a commencé à porter le voile après un pèlerinage à la Mecque il y a quelques années. « C'est un sujet de dispute entre elle et moi », s'exclame Mervé Abatioglou, visiblement remuée. La stambouliote de 30 ans, qui a étudié dans des écoles laïques et qui mène aujourd'hui une brillante carrière comme analyste d'affaires, a encore du mal à accepter la décision de celle qui lui a donné la vie. Un fossé s'est creusé entre la mère et la fille, à la manière du clivage qui existe entre la religion et la laïcité au sein de la société turque. Sur cette fracture sociale flotte le voile, un symbole brandi par les deux camps et qui crée tant de brouhaha qu'on a pratiquement oublié d'entendre les voix des principales intéressées, les femmes. S'affranchir de la pression sociale. À 14 ans, Mervé Albayrak portait déjà le voile. Ma mère m'a même demandé si j'étais certaine de faire ce choix à un si jeune âge, se souvient cette enseignante de 29 ans. Elle a grandi dans une famille pieuse à Ankara, la capitale turque. Elle vit dans un milieu particulièrement conservateur, mais elle dit faire face à du rejet de la part d'une portion importante de la société qui est laïque. Parfois, lorsque je traverse la rue, on me regarde étrangement. Certaines personnes ne veulent pas de musulmans dans leur vie. Je ne me soucie pas de leur habillement. Ils ne devraient pas se soucier du mien, dit-elle en haussant les épaules. Certaines personnes supposent que nous, les musulmanes qui portons le voile, sommes fermés d'esprit, ajoute-t-elle. Et pourtant, les religieux et les laïcs devraient communiquer davantage entre eux. Contrairement à Mervé Albayrak, qui souhaite porter le voile, d'autres femmes issues elles aussi d'un milieu conservateur ont souvent du mal à s'affranchir du hijab. Lorsque la journaliste Bouchra Sebeci a décidé d'abandonner le voile, elle raconte que son père a cessé de lui parler pendant 2 ans et que sa mère avait honte de marcher à ses côtés dans la rue. En 2019, plusieurs femmes turques ayant abandonné le voile ont partagé leur expérience sur Twitter lors du défi hashtag 10 Years Challenge. Après avoir publié son témoignage, Rabia Okur constate avoir reçu beaucoup de messages de femmes ayant peur de faire de même et de trolls sur les réseaux sociaux qui l'accusent d'être un pion de l'Occident. Depuis, La plupart des femmes turques ayant participé au hashtag 10 Years Challenge ont éliminé leurs publications originelles ou même leur profil de Twitter. Les femmes voilées subissent aussi des pressions au sein même de la communauté musulmane. L'activiste féministe Rumeysa Samdereli en sait quelque chose. Elle porte le hijab depuis qu'elle a 12 ans, mais elle n'adhère pas à l'image traditionnelle des musulmans en Turquie. Certains trouvent paradoxal que je sois musulmane et que je lutte pour la liberté et l'égalité entre les genres, note Rumeysa, qui lutte aussi pour les droits de la communauté LGBTQIA+. Qu'elle porte ou non le hijab, les femmes doivent faire face aux pressions sociales et aux jugements. Et cette situation ne date pas d'hier. Vous écoutez « Voilés ou non, les Turcs s'émancipent », un texte de Marianne Demers-Lemay, paru dans l'édition de février-mars 2023 du magazine Elle. Un conflit historique entre religion et laïcité. Dans les années 1990, des milliers de femmes voilées affluent dans les rues de villes comme Istanbul. Elles protestent contre des lois qui les empêchent d'entrer dans les universités et les institutions publiques si elles ne découvrent pas leurs cheveux. Après la chute de l'Empire ottoman au début du XXe siècle, la jeune République turque entreprend un virage culturel et politique à 180 degrés sous la présidence de Mustafa Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne. Le regard fixé vers l'Europe, le pays se modernise en adoptant les principes d'égalité et de laïcité de la France des Lumières et en se détachant de son passé. Les habits et les chapeaux traditionnels sont remplacés par des vêtements à la mode européenne. L'écriture ottomane, cousine de l'arabe, est remplacée par un alphabet dérivé de l'alphabet latin, ce qui a pour effet de couper les Turcs de leur passé écrit. Les ordres religieux, comme ceux des célèbres derviches, sont déclarés illégaux. Les femmes, considérées comme égales aux hommes, accèdent au droit de vote avant les femmes françaises et sont de plus en plus présentes dans la sphère publique. Après le coup d'État militaire de 1980, le gouvernement turc serre la vis. Au nom de la laïcité, on empêche les femmes de porter le voile dans les institutions publiques. Les femmes sortent dans la rue pour réclamer le droit à la liberté religieuse. Parmi la population conservatrice, beaucoup sont insatisfaits des réformes menées par une élite séculaire et européanisée soutenue par l'armée. Recep Tayyip Erdogan est à la tête du pays depuis Recep Tayyip Erdogan est à la tête du pays depuis 2003. Ce politicien populiste abolit les lois contre le voile dans l'espace public et, soutenu par les groupes religieux, encourage les femmes à reprendre leur rôle traditionnel à la maison. En octobre dernier, alors que son parti était en perte de vitesse en raison d'allégations de corruption et d'une inflation galopante, le président turc a utilisé le voile pour remobiliser son électorat conservateur à l'approche des élections prévues pour 2023 en proposant de demander, par référendum, que le droit de porter le voile soit inscrit dans la Constitution. Aujourd'hui, dans les rues des villes comme Istanbul, les femmes se promènent les cheveux au vent ou avec des hijabs de toutes les couleurs. Reste que la bataille pour l'émancipation des femmes, qu'elles soient voilées ou non, est loin d'être gagnée dans ce pays qui enregistre des taux records de féminicides. Pour ce faire, les femmes ont besoin d'être écoutées, affirme l'activiste Rumeysa Samdereli. Je crois qu'aussi longtemps que les idées d'opposition n'ont pas d'espace pour être exprimées, nous n'avancerons pas davantage en termes d'égalité en Turquie. Le voile, un emblème politique. Si le voile est devenu un élément aussi controversé, c'est qu'il symbolise la frontière entre deux idéologies opposées, selon la sociologue Niloufer Golay, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales en France. D'un côté, la modernité, portée par l'Occident avec sa trousse de valeurs incluant l'individualisme, la laïcité, la démocratie et l'égalité homme-femme. De l'autre, l'islamisme, qui prône la communauté et la religion, et qui a été mis de côté lors de la modernisation de la Turquie. Aucun autre symbole que le voile ne représente autant l'altérité de l'islam pour l'Occident, écrit la sociologue dans son livre « The Forbidden Madden, Civilization and Veiling ». Le voile est souvent associé à l'asservissement de la femme et la revitalisation des mouvements islamistes dans le monde musulman est souvent interprétée comme un défi à la modernité occidentale. Autrefois, les femmes portaient le voile pour respecter la tradition. Mais aujourd'hui, de nouvelles générations de Turcs éduqués choisissent de le porter par conviction et elles réclament une nouvelle place dans la communauté musulmane, fait observer Niloufer Golay. Le voile est une déclaration politique des femmes. Il s'agit d'une réappropriation active du mode de vie et des croyances islamistes. De la Turquie au Québec, le même combat. De ce côté-ci de l'Atlantique, la société québécoise entretient un rapport encore plus tendu avec le voile. Ce vêtement est souvent perçu comme le symbole de la victimisation de la femme qui le porte, qu'il convient alors de sauver, exprime le chercheur en éthique Bertrand Lavoie dans son livre « La fonctionnaire et le hijab » paru en 2018. Loin de constituer un portrait nuancé et pluraliste, le regard que porte la société sur les femmes musulmanes portant le hijab se présente sous la figure d'un triangle social péjoratif. L'homme musulman dangereux et la femme musulmane en danger, le tout devant l'occidental civilisé, ajoute le chercheur. Selon lui, cette tendance a été accentuée par le traitement du terrorisme dans les médias et par le durcissement identitaire au Québec depuis la crise des accommodements raisonnables. Il y a une fixation de l'opinion publique sur le port du voile. On en parle dans les médias. Et il y a eu des projets de loi, remarque également la sociologue et chroniqueuse Dalila Awada. Mais finalement, ce sont les femmes portant le voile qui vivent plus d'expériences négatives, qui sont traitées différemment, qui voient leur qualité de vie altérée, fait observer cette Québécoise qui porte le voile depuis des années. Au lieu de forcer les femmes à faire quelque chose, le mieux, ce serait de créer les meilleures conditions possibles pour qu'elles puissent choisir de façon éclairée ce qui leur convient le mieux, qu'elles portent le voile ou non. C'était « Voilé ou non, les Turcs s'émancipent », un texte de Marianne Demers-Lemay, paru dans l'édition de février-mars 2023 du magazine Elle.
Kiosque magazine.
Le canard noir, un texte de Philippe Blin, paru dans le volume 33, numéro 2 de l'hiver 2022 du magazine Québec Oiseau. Avec son plumage monochrome, le canard noir n'attire pas particulièrement l'attention des photographes. Pourtant, à nasse roux-bripès, le canard aux pattes rouges, selon son nom scientifique, est sans doute le plus représentatif de nos anatidés. Presque dépourvu de dimorphisme sexuel, le canard noir est issu, comme le canard brun, d'une lignée ancienne du colvert, dont il est génétiquement très proche. D'ailleurs, les deux espèces s'hybrident librement et sont territoriales l'une envers l'autre. Le canard noir a longtemps été le canard barboteur dominant au Québec et demeure celui qui jouit encore aujourd'hui de l'aire de répartition la plus étendue chez nous. On le rencontre toute l'année dans la plupart de nos régions habitées. Notre territoire constitue d'ailleurs, avec l'Ontario, le centre d'abondance de l'espèce. Prisé des chasseurs, gibier d'eau abondant et répandu, le canard noir a contribué plus que tout autre à varier l'ordinaire monotone de la table de génération de Québécois depuis les débuts de la colonisation jusqu'à l'aube du XXe siècle. Wintle, dans The Birds of Montreal, 1896, nous apprend qu'on le chassait sans merci autour de Montréal, au printemps et à l'automne, car il commandait un bon prix dans les marchés de la ville. Alimentation. Tout comme le colvert, le pilet et d'autres barboteurs, le canard noir se nourrit d'invertébrés aquatiques et d'insectes qui foisonnent dans son habitat. Il ne dédaigne pas pour autant les matières végétales, notamment les graines flottantes de nombreuses plantes qui poussent au bord des eaux. Les rubaniers, les carex, les sirpes et l'omniprésente l'hercyphorie. Avant la ponte et durant la couvaison, le métabolisme de la femelle lui réclame des proies riches en protéines. Cela tombe bien. C'est la période d'abondance des larves d'éphémères, de trichoptères, de libellules et de mouches. Pour des raisons évidentes, les canards noirs de l'estuaire s'alimentent surtout à marée basse ou descendante quand l'estran leur révèle une source abondante d'invertébrés marins prisonniers des étangs de marée, gastéropodes, isopodes et amphipodes. Ils se déplacent alors à pied, portés sur leurs pattes puissantes, en quête de cette manne éphémère, visitant un trou d'eau après l'autre. Ce canard dit « barboteur » est également capable de plonger pour échapper à un prédateur ou pour rejoindre des proies qui seraient hors de portée d'un simple basculement de son corps dans l'eau. Habitats et migrations. Durant la saison de nidification, le canard noir se disperse dans toute l'immensité de la forêt boréale et de la taïga du Québec jusqu'à la toundra. Il fait son nid un peu partout dans les tourbières, au bord des rivières et sur les lacs, ainsi que sur les étangs aménagés par les castors. Voilà un beau cas de commensalisme, car le canard profite du castor sans lui nuire ni par ailleurs lui être bénéfique. Cet oiseau niche également en abondance dans les eaux saumâtres de l'estuaire du Saint-Laurent, en se concentrant dans les îles qui s'étirent le long de la côte sud entre l'île d'Orléans et le golfe. Cette insularité lui procure une certaine protection contre les prédateurs, dont l'homme, mais expose son nid aux ondes de tempête et aux grandes marées. En hiver, le canard noir se rassemble surtout en eau salée ou saumâtre, en particulier dans les immenses marais côtiers qui bordent la côte atlantique des États-Unis. Ceux qui passent l'hiver chez nous se répartissent en petits groupes le long de l'estuaire du Saint-Laurent, mais se rencontrent également sur les cours d'eau qui ne gèlent pas à cause du courant, comme dans les rapides entourant Montréal. Le canard noir est un petit migrateur. Il parcourt des distances relativement courtes, sauf dans le cas des individus qui nichent dans le Nouveau-Québec et le nord de l'Ontario et qui doivent franchir plus de 1000 km jusqu'à leur lieu d'hivernage. Certains oiseaux, notamment ceux qui vivent dans les provinces maritimes, sont carrément sédentaires. La migration s'effectue la nuit, en groupes assez restreints de quelques dizaines d'individus. À l'automne, le gros des effectifs du canard noir quitte l'estuaire du Saint-Laurent lorsque la température descend sous le point de congélation. Comme les autres canards à l'automne, le noir s'attarde souvent assez longtemps dans de nombreuses haltes migratoires pour se restaurer et se reposer, surtout s'il n'est pas dérangé par les chasseurs. L'essor fulgurant du canard colvert. Aujourd'hui, le canard colvert est le canard barboteur dominant dans le sud du Québec, de l'Outaouais à la Gaspésie, quelle que soit la saison. Il n'en a pas toujours été ainsi, loin de là. L'édition de 1947 du guide d'identification de Roger Torrey Peterson, A Field Guide to the Birds, indique que cette espèce niche à l'est jusqu'au Grand Lac. Celle de 1980 montre une aire de nidification qui atteint tout juste la région de Québec. Auparavant, Wintle, 1896, et Dion, 1906, mentionnaient ce canard comme rare et seulement de passage à Montréal et au Québec. C'est dans la deuxième moitié du 20e siècle que nous est arrivé de l'ouest et du sud ce canard cosmopolite, plus adaptable que le canard noir, favorisé par les lâchers annuels au profit des chasseurs, de centaines voire de milliers d'individus élevés en captivité aux États-Unis. Le canard colvert est devenu rapidement de plus en plus abondant et envahissant, au point de repousser le canard noir dans ses derniers retranchements sauvages. La mue. À l'instar de tous les anatidés, le canard noir mue l'été en perdant en même temps toutes ses plumes de vol, ce qui le cloue au sol ou sur l'eau et le rend très vulnérable aux prédateurs. Avant cette période critique, les mâles qui ne participent pas à la couvaison ni à l'élevage des canetons vont parfois faire de longs déplacements pour se rassembler avec les non-nicheurs sur de grandes étendues d'eau, comme les baies James et d'Hudson ou les côtes du Labrador et du Golfe. Quant à elles, les femelles vivent leur mue à proximité des couvées dont elles ont la garde. même si les canetons sont nidifuges et s'alimentent aisément seuls, la mère continue longtemps de les abriter du froid durant la nuit. Déclin et stabilisation. Le canard noir a vu ses effectifs mondiaux fondre de quelque 600 000 à 300 000 oiseaux entre les années 1960 et 1990. Alerté, les autorités cynégétiques des États-Unis puis du Canada ont alors réduit les limites de capture pour les chasseurs. Depuis, sa population semble s'être stabilisée autour de 280 000 individus. Le canard noir n'est plus le canard dominant dans le sud du Québec. Détrôné par le colvert, il a disparu avec les grands marais qui bordaient naguère le fleuve entre La Prairie et Contrecoeur, où s'est évanoui avec les ruisseaux paresseux qui sillonnaient les terres grasses de la vallée du Saint-Laurent et du Haut-Richelieu, et qu'on a rectifié et creusé au nom de la productivité agricole. Malgré tout, notre canard emblématique demeure bien présent ici, indissociable des rives de l'estuaire et du golfe, des riants terroirs de Bellechasse, de Lillet et de Kamouraska, comme des paysages plus austères de Charlevoix et de la Haute-Gaspésie. Là encore, on voit au couchant circuler ces troupes mouvantes en longues files au-dessus des eaux et s'égrener dans le ressac le long de la côte. C'était « Le canard noir », un texte de Philippe Blin paru dans le volume 33, numéro 2 de l'hiver 2022 du magazine Québec Oiseau.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.